7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, tout sur la consommation de lait en Afrique. Avec le confinement en Europe, le lait en poudre européen s'est retrouvé en surproduction et envahit plus que jamais les marchés ouest-africains. Le lait en poudre importé est en moyenne 30 à 50% moins cher que celui des éleveurs locaux. Faiblement taxé, coupé avec de l'huile de palme, il est considéré par la filière locale comme une concurrence déloyale pour un produit de mauvaise qualité. Mais en même temps, il faut savoir que 50% de la demande de produits laitiers en Afrique n'est pas satisfaite par la production locale insuffisante. Alors, quelle solution pour aider les éleveurs africains, mieux structurer une filière qui pourrait créer des emplois pour les jeunes? Les voisins, si vous avez pris le petit déjeuner ce matin avec une boîte de lait sur la table, c'est le moment de nous appeler pour partager votre réflexion, vos questions aussi à nos invités. Quel lait consommez-vous? Et puis, dites-nous ce que vous voyez comme solution. Vous nous téléphonez surtout dès maintenant au 33 7 64 45 51 41. 33 7 64 45 51 41. C'est le nouveau numéro WhatsApp depuis quelques jours. Surtout, pensez à bien le rentrer dans vos contacts téléphoniques pour que nous puissions vous envoyer nos prévisions de sujets à venir. Et comme ça, vous pouvez vous inscrire pour le débat. Voilà, vous nous appelez pendant le direct. Surtout, n'attendez pas la fin de l'émission. 33 7 64 45 51 41. À mes côtés, j'ai la chance d'avoir Claire Fage, journaliste à RFI, connue pour son excellente chronique des matières premières. Bonjour Claire.
Bonjour.
Bon, j'ai sûrement un peu schématisé ma présentation sur la consommation de lait. Vous allez évidemment nous donner quelques repères sur le marché mondial du lait, puis sur la situation de l'Afrique de l'Ouest. Également avec nous, Biogoura Soulé. Bonjour.
Bonjour madame. Bonjour Emmanuel.
Vous êtes agroéconomiste, spécialiste des questions d'élevage pour la CDAO et vous êtes à Cotonou au Bénin. Indatou Amadou est également avec nous à Ouagadougou. Bonjour Indatou Amadou.
Bonjour Claire, bonjour Emmanuel.
Vous appartenez à l'association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane et vous coordonnez aussi la campagne que certains connaissent bien, Mon lait est local, une campagne qui regroupe plusieurs acteurs à l'initiative de l'ONG Oxfam. Un entrepreneur est également avec nous au téléphone au Sénégal. Bonjour Bagoré Batili.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Vous êtes cofondateur de la Laiterie du Berger au Sénégal, une entreprise pionnière dans la valorisation du lait local qui fabrique, commercialise des yaourts et d'autres produits laitiers collectés avec du lait collecté auprès de 800 éleveurs. Et bien sûr, vous êtes rentable maintenant, votre entreprise est rentable depuis peu, hein, elle a été créée il y a plus de 10 ans. Et vous nous direz aussi quels sont les obstacles pour travailler avec du lait local. Et quant à vous les voisins, dites-nous ce que vous inspire ce problème, quel lait vous consommez, les éleveurs et les producteurs de lait dans votre pays sont-ils assez soutenus pour faire face à la concurrence des surplus européens? Vous avez la parole et vous nous appelez dès maintenant 33 7 64 45 51 41. Des messages postés sur nos réseaux sociaux. Bruce, qui est à Brazzaville au Congo, qui nous dit qu'il privilégie le lait local parce qu'il est plus naturel. Le lait étranger est industriel. Consommer le lait local a en plus un intérêt social et économique. Abdoulaye est à Mbour au Sénégal. Je préfère le lait local qu'on vient de traire. Je le prends bien volontiers avec du couscous sénégalais. Les autres laits, même locaux industriels, ne m'enchantent guère et la qualité n'est pas toujours là. Razakou est à Lomé au Togo. Moi j'adore le lait fourni par les éleveurs parce que moi je suis Peul, mon papa élevait des vaches. Dans mon enfance, je consommais chaque jour une quantité importante de lait, mais actuellement je souffre avec le manque de lait de vache à Lomé. Ibrahima est dans la région de Kaolack au Sénégal. Le lait local est introuvable, nous consommons du lait en poudre importé. C'est moins cher, c'est plus accessible, c'est plus pratique. Il n'y a quasiment pas d'industrie locale de transformation. Amadou Niabi est à Niabina dans le sud de la Mauritanie, tout près de la frontière sénégalaise. Et il nous dit qu'en Mauritanie, même les éleveurs consomment du lait en poudre importé. Là, peut-être Bagoré Batili, vous avez peut-être envie de réagir sur ce que vient de dire Ibrahima au Sénégal et de l'autre côté de la frontière, Bagoré Batili.
Bah, écoutez, Emmanuel, là, ils ont raison. Hein. Je pense que c'est très difficile de trouver du lait local, surtout dans les villes.
Voilà, je pense que il dit que le lait local est introuvable au Sénégal.
Ouais, c'est on a des parts de marché très faibles. Hein. Nous, dans mon entreprise, on vend du lait, hein, à voir là, sous marque de Lima. Bon, peu importe, mais en tout cas, ça représente même pas 1%.
Mais oui, mais quand même, il y a bien votre marque quand même qui vend du lait local, Bagoré Batili. Ouais. On va peut-être redonner la marque.
Oui, voilà, il y a, en tout cas, et puis on grossit. Donc,
Dolima.
J'espère que dans 10 ans, voilà, si vous refaites la même émission, il y a des gens tout le monde dira, bon, il y a l'alternative. On sera dans une discussion.
Bon. Alors, on n'est pas encore dans 10 ans, la route est longue, hein, mais justement, on va voir quelles sont les étapes. Je vous propose aussi d'écouter le témoignage d'une mère de famille, Mariama. Elle vit à Tawa, dans le centre du Niger, une région agro-pastorale. Et pourtant, voici le message qu'elle nous a laissé sur notre compte WhatsApp.
Bonsoir les voisins et les voisines. Au Niger, ce n'est pas facile d'avoir le lait local à chaque fois qu'on le souhaite. Donc, nous utilisons le lait en poudre importé de l'Europe. Ce lait nous revient moins cher par rapport au lait local. Le paquet coûte 1500 à 1700 francs le 500 grammes. Nous utilisons le lait en poudre pour toute la famille, aussi bien pour les enfants de plus de 2 ans. Un paquet peut durer une semaine à 10 jours. Donc, nous trouvons que c'est plus économique par rapport à l'utilisation du lait local, puisque le lait local ne se conserve pas très bien sans le frigo.
Oui, elle a dit beaucoup de choses, hein, cette mère de famille Claire Fage. Hein. La disponibilité, le prix, la conservation. Il y a encore beaucoup d'autres choses à dire. Claire Fage, peut-être donnez-nous déjà quelques repères sur le marché du lait pour qu'on comprenne bien. Le problème est complexe.
Oui, alors le marché du lait, c'est un marché qui s'est mondialisé de plus en plus au fil des années. Autrefois, par continent, on avait des protections en Europe, par exemple. L'offre et la demande étaient bien contrôlées grâce à des quotas. Et puis, les producteurs par pays et par exploitation avaient un certain nombre de litres à produire et pas plus. Ça permettait de ne pas avoir trop d'excédents. Et puis en 2015, l'Europe est rentrée dans cette mondialisation laitière qui est dirigée par la Nouvelle-Zélande, hein, le grand exportateur de lait dans le monde, qui fait aussi les prix mondiaux. Et donc l'Europe est entrée dans ce marché mondialisé du lait. Et en 2015, tous les pays européens qui pouvaient produire et qui étaient les plus compétitifs, comme l'Irlande, et puis il y a des régions dans l'ouest de la France aussi où les exploitations sont très compétitives, se sont mis à produire pour garder une part de marché. C'est toujours la même logique. Et puis on a eu ce qui nous pendait au nez, c'est-à-dire des excédents énormes qu'il a fallu ou stocker ou exporter dans les pays qui finalement en ont besoin, parce que l'Afrique, elle a besoin aussi d'importer du lait parce qu'elle n'est toujours pas autosuffisante, loin de là. Vous l'avez dit, 50% de la consommation.
Il manque la moitié des besoins, en gros.
Voilà, parce que c'est paradoxal, mais l'Afrique est une grande pays, est une terre d'élevage. Hein, tous ces pays sahéliens ont des troupeaux énormes, mais finalement, ce sont surtout des troupeaux de vaches à viande. Donc, qui, effectivement, quand on ne leur enlève pas leur veau, font du lait. Mais font moins de lait que des vaches laitières qui sont élevées exclusivement pour leur lait.
Vous nous parliez de la Nouvelle-Zélande qui est le grand producteur mondial de lait. Juste ce petit détour, on s'éloigne 2 minutes de l'Afrique parce qu'on a reçu ce message d'un auditeur qui est à l'île Maurice à Curpipe, hein, c'est Chris. Il nous dit ici le lait en poudre ou en brique est importé d'Australie, de Nouvelle-Zélande et puis aussi Europe, Afrique du Sud. Le lait frais ou pasteurisé est aussi produit localement mais en toute petite quantité et moi je consomme comme du lait en poudre de Nouvelle-Zélande. Mais avec la pression du dollar américain et de l'euro ou encore de la livre sterling sur la roupie mauricienne, le prix du lait en poudre ne baisse pas. Donc vous voyez, comme quoi on est finalement assez nombreux à être concernés par cette problématique du lait. En quoi la pandémie, le Covid-19, a eu un effet sur l'augmentation de l'arrivée du lait en poudre européen sur le continent? Est-ce que là, d'ailleurs, il y a plus de lait en poudre depuis le Covid-19, Claire Fage?
Oui, parce qu'effectivement, il y a eu moins de consommation consommation de certains produits laitiers et donc un stockage important nécessaire de poudre de lait. D'ailleurs, l'Europe a donné une aide aux producteurs de lait pour qu'ils puissent stocker leur poudre. Il y avait moins de consommation de fromage dans les restaurants puisque tout a fermé. Donc en fait, pour pouvoir conserver ce lait, on l'a transformé en poudre. Et on a stocké cette poudre. Donc, on a des stocks
pour
importants.
Pour ne pas revendre à perte pendant le pire de la pandémie.
Pour ne pas jeter du lait.
Et évidemment, tout ça porte un préjudice au lait local, en termes de prix en tout cas. Si on commence par le pis de la vache, soyons un peu pédagogiques. Biogoura Soulé, Bagoré Batili, vous qui êtes en prise avec les éleveurs. Avant d'extraire le lait, une vache européenne, elle produit en moyenne 28 litres par jour. Une vache africaine, 4 litres par jour et encore, pas toute l'année. Comment on explique un tel écart? Qui veut répondre à cette question?
Oui, je crois que le problème est plus complexe peut-être. Et j'ai très bien suivi les explications données par notre ami qui est à la frontière de la Mauritanie et puis de Tawa. Je crois qu'il pose les vrais problèmes que nous avons à propos du lait dans cette région de l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest, où on est devant un paradoxe avec une région qui a quand même un potentiel assez important, mais qui se trouve être aujourd'hui confrontée à une forte dépendance qui a tendance à s'accentuer du fait de l'urbanisation, des changements de mode de vie, plus enclin à consommer ce qui est transformé et bien standardisé, etc. Mais le problème que vous posez pour les vaches africaines, je crois qu'il faut les rechercher, les comptes performance, il faut les rechercher au moins à trois niveaux. Au niveau de l'alimentation, qui est toujours très rustique, et les animaux sont obligés de se déplacer sur une grande période et une grande superficie pour trouver du pâturage. Et aussi des questions de santé animale. C'est une question de santé animale aussi. On n'a pas réussi à les résoudre sérieusement, même si dans des pays comme le Sahel, on a beaucoup de vétérinaires et d'auxiliaires de santé qui ont été formés. Beaucoup sont dans les zones périurbaines et ne sont pas dans des grands bassins de production. Donc tout ça ne favorise pas le développement donc de races et d'espèces en capacité donc de produire de grandes quantités de lait, et ça fait que la productivité, je crois, tourne autour de 2 litres par vache. Mais on va revenir sur ces questions. Même le peu qui est produit, le grand problème que nous avons, et je crois que notre ami de la laiterie, je ne vais pas nous contredire, c'est la collecte. La collecte constitue un véritable lot d'étranglement et actuellement en Afrique de l'Ouest. Et ça, je crois qu'on doit résoudre cette question si on veut réduire le niveau de dépendance que nous avons aujourd'hui pour des produits dont on ne contrôle d'ailleurs pas la qualité.
Alors on remonte un peu donc la filière, hein, Bagoré Batili avec vous. Vous travaillez avec près de 800 éleveurs. C'est le nœud, c'est là que commencent les problèmes, la collecte du lait?
Oui, je partage complètement ce qui a été dit tout à l'heure sur les facteurs limitants, qui sont l'aliment, la santé. Vous parliez de trois facteurs, je pense que le troisième que vous aviez en tête, c'était la génétique, même si vous ne l'avez pas dit,
voilà,
je me permets de...
Certes.
Tu vois comme quand on s'entend.
On n'a pas des vaches laitières, c'est ce que nous disait Claire Fache.
En fait, on a des vaches qui sont adaptées à... Voilà, des races à viande et puis des vaches qui sont adaptées à vivre dans cet environnement où l'aliment n'est pas systématique, où il faut savoir se déplacer, où il y a beaucoup de pression sanitaire, donc elles sont très rustiques. Ben ça donne pas des animaux qui orientent leur physiologie, leur fonctionnement vers la production.
Bien sûr, ça veut pas dire que c'est un mauvais choix. Ça veut pas dire que c'est un mauvais choix de la part des éleveurs.
C'est un choix de circonstances.
C'est
très intelligent. Comme d'habitude. La vache néo-zélandaise, elle est comme ça en Nouvelle-Zélande parce que il y a beaucoup d'herbes, ils ont beaucoup assainir leur environnement, etc. Donc ils ont le lait le moins cher du monde. Les vaches sont toujours adaptées à leur environnement. Ici en Afrique, on est en train de devenir des nations de consommation de lait et un marché. Et si on réussit à connecter le marché et nos éleveurs traditionnels, ça fera changer le profil de nos animaux, qui sans doute ont moins besoin d'être aussi rustiques parce que les éleveurs leur apporteront l'aliment, on apportera la maîtrise sanitaire. Et puis, du coup, on pourra favoriser les animaux qui ont une génétique plus orientée vers la production, hein, par la sélection, les croisements, etc. Enfin, ça, c'est classique. Mais le moteur de tout ça, c'est, pour moi, c'est le marché, l'opportunité du marché. Bon, et donc, ça commence par... Enfin, en tout cas, une fois qu'on a produit, il faut collecter. En effet.
Est-ce qu'aujourd'hui, les éleveurs sénégalais, même s'ils ne font pas partie des pays les plus producteurs de lait, hein, comparé au Mali, au Niger et en Mauritanie, qui produisent 76% du lait local d'Afrique de l'Ouest, mais est-ce que les éleveurs sénégalais, à l'heure actuelle, même avec ce peu de lait qui est produit, ils arrivent à écouler tout leur lait sur le marché local, avec la part importante du lait en poudre?
Bon, là, on peut dire non. Si je reprends ce qu'ont dit les premiers interlocuteurs, ben, le marché a raison. Hein. Il faut pas remettre en question ce que dit le marché. Donc, ces consommateurs qui nous disent « je ne trouve pas de lait », ben, ils ont raison.
Ah, ils ne trouvent pas de lait et en même temps, l'éleveur ne parvient pas à trouver le client.
Ben, l'éleveur est, par exemple, le Sénégal, c'est quand même c'est un petit pays, mais quand même, l'éleveur est souvent à plusieurs centaines de kilomètres du client qui cherche le lait. Et il n'y a pas de logistique affûtée, parce qu'il faudrait aller vite, comme on a dit, il y a une question de conservation, il n'y a pas la logistique, la transformation, etc., qui permet de tout relier pour le moment. Ouais. Bon, nous, on achète du lait, comme vous l'avez dit, environ à 800 éleveurs. Matin et soir, on va chercher le lait, on l'amène à l'usine, on traite tout ça, et on amène les camions à Dakar, un peu à Kaolack et tout ça. Ben, vous avez vu, il y a des gens qui disent « dans telle ville, je ne trouve pas le lait de Dolima ben, ». Donc, il y a aussi une question d'accès au marché. Donc, pour moi, la collecte, il faut la relier à la transformation et à la mise en marché. C'est une seule entité. D'accord ? Et là aussi, si on dit bah, 800 éleveurs, c'est bien, 800 familles d'éleveurs. Au Sénégal, il y en a plus de 350 000. Donc vous voyez, on n'a même pas 1%, là, une fois encore, hein, on ne capte même pas 1% de l'offre. En 10 ans, en 15 ans, en fait, depuis que la laiterie a démarré, quand on voit la transformation qu'on a réalisée dans notre bassin de collecte grâce à la mise en marché du lait des éleveurs, qui étaient déjà là avant, hein, quand on voit à quel point ça peut entraîner toute une économie, on se dit, bon, maintenant, vraiment, la question sérieuse, c'est jusqu'où on peut généraliser ça? Parce que c'est tellement vertueux pour l'économie locale. Hein,
Indatou Amadou, du côté des ONG, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose là-dessus? Ensuite, on va répondre à des questions d'auditeurs sur le lait importé.
Indatou. Merci. Oui. Je partage avec mes prédécesseurs sur la question cruciale qui est la collecte du lait. Donc, effectivement, le lait, il y a un potentiel. Le potentiel que nous avons en Afrique de l'Ouest n'est pas très valorisé, parce que cette filière, lait local, il faut le dire aussi, elle est peu soutenue. Hein. Elle est peu soutenue malgré qu'elle ait réussi l'exploit d'augmenter de plus de 50% sa production en 15 ans. Ça, c'est un constat. Mais donc, les questions de collecte de lait se posent effectivement, parce qu'actuellement, 2% de la production est seulement collectée. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ils disent, mais il faut une volonté politique pour vraiment appuyer ce secteur et voir ce qu'il y a, le potentiel qu'il y a, comment le valoriser.
Alors, il faut qu'on parle de ce fameux lait en poudre importé, parce qu'on a pas mal de questions. Cédou nous pose cette question de Niamey. Je voudrais savoir de quoi est composé le lait en poudre. Est-ce qu'il y a autre chose que du lait? J'ai dit en introduction, Claire Fache, que dans ce lait en poudre importé, il est coupé avec de l'huile de palme. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce que je pense que c'est relié aussi à la question du prix.
Oui, effectivement. En fait, ce qui s'est passé il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous rappelez, on parlait d'un boom des prix du beurre en Europe. Eh bien, quand on fait du beurre, il reste quoi? Il reste la poudre, mais la poudre écrémée.
Une partie du lait qui n'est pas utilisée pour le beurre.
Donc, elle n'est pas grasse. Donc, pour la réengraisser, on a eu l'idée de mettre de l'huile de palme. Voilà, et donc cette poudre de lait réengraissée à l'huile de palme s'est retrouvée sur le marché. Et c'est un produit qui est fait en Europe, qui depuis quelque temps a été interdit à la vente en Europe.
Pourquoi?
Mais parce que c'est considéré comme...
Pas tout à fait du lait.
Voilà, ça n'est pas du lait, voilà. Donc de toute façon c'est de la tromperie au consommateur, et puis c'est mauvais au niveau
ça veut dire
santé.
Que les consommateurs achètent comme du lait en poudre pour enrichir les bouillies, etc., la cuisine, le petit déjeuner, ça n'est pas 100% du
non,
lait.
Non, parce que ça n'est pas interdit à l'exportation.
Donc il y a un produit végétal qui est de l'huile de palme, qui d'ailleurs vient
voilà.
d'Asie.
Et c'est 30% moins cher. Ça coûte 2 000 euros la tonne contre 3 000 euros la tonne de lait
Cette poudre de lait, quand on la reliquéfie avec de l'eau, on jurerait que c'est du lait.
Oui, et le problème, c'est l'étiquetage. C'est que le consommateur va vers le moins cher, c'est sûr. Mais il faudrait qu'il ait l'information réelle sur l'étiquette qui, parfois, peut porter à confusion.
Ça veut dire que ce lait est beaucoup moins nutritif que du lait de vache ?
Bien sûr. Parfois, il y a même du lactosérum qui remplace la poudre de lait. Donc ça, c'est une nouvelle tendance depuis 6 mois, 1 an. Et là, on a encore moins de protéines. Il n'y a même plus de caséine, ce qui empêche d'ailleurs de faire une spécialité ouest-africaine, le lait caillé. C'est très populaire et on fait ça avec de la poudre de lait. Mais si c'est du lactosérum, ça ne marche pas. On ne peut pas cailler le lait. Et pour les enfants, c'est absolument pas nutritif. Quand on remplace la poudre de lait par du lactosérum, normalement, ça sert à faire des biscuits. Donc c'est utilisé en Afrique de l'Ouest, le lactosérum, sauf qu'il ne faut pas qu'on en mette dans la poudre de lait.
Il y a une dérive. Indiatou Amadou, le lait européen, c'est finalement perçu sur le continent africain par certains, dont les ONG, comme un déchet finalement pour un pays pauvre.
Merci. C'est pas seulement des ONG, mais aussi les organisations de producteurs de lait ont compris cela, parce que nous avons vu sur nos marchés effectivement ce produit qui est assez répandu et qui coûte effectivement moins cher, très moins cher. Et vous l'avez dit tout à l'heure qu'elle coûte 30% moins cher que le lait local. Pourquoi? Je suis tout à fait d'accord avec cette explication, parce que ce n'est pas du vrai lait. C'est du lait réengraissé avec de la matière grasse végétale qui est elle-même moins chère par rapport à la graisse animale. Donc, ce que nous avons en Afrique de l'Ouest, les consommateurs eux-mêmes ne perçoivent pas cette différence. Ils ne perçoivent pas cette différence, ils la voient seulement au niveau des prix. Donc, étant moins cher, donc je consomme ce qui est moins cher au regard de mes revenus. Mais cette campagne que nous avons ici en Afrique de l'Ouest essaye d'informer les consommateurs pour qu'ils puissent faire des choix raisonnés, pour qu'ils puissent comprendre que ce lait, en fait, c'est un faux lait, ce n'est pas du lait, comme l'a dit tout à l'heure ma prédécesseur. Donc, ce n'est pas du lait et ce n'est pas connu comme ça en Afrique, parce qu'on voit des grands panneaux publicitaires qui font la publicité de ce produit, mais avec des fois une vache bocale sur ce panneau montrant par exemple que c'est du lait local, donc c'est une fausse publicité mensongère.
Vous parliez justement du prix, Indatou Amadou. On va laisser la parole à un auditeur qui nous a posé une question sur notre compte WhatsApp. Vous pouvez continuer de nous appeler d'ailleurs au 33 7 64 45 51 41.
Bonjour les voisins et les voisines. Ce que je ne comprends pas, comment se fait-il qu'une production localement faite serait plus chère qu'une production importée depuis l'Europe?
Alors, avec ce qu'on sait déjà, merci pour la question, Christophe, qui nous poste ça de Lomé au Togo. Est-ce que le fait que le lait en poudre soit du lait coupé avec de l'huile de palme, c'est essentiellement ça qui explique que le prix est beaucoup moins cher parce que c'est plus vraiment du lait? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui entrent en jeu pour expliquer que le lait importé soit moins cher que le lait local? C'est vrai que c'est compliqué à comprendre quand même.
Pas seulement, c'est un problème de disponibilité. Enfin, vous me direz,
Indatou,
ce que vous en pensez. Ou Bagoré, effectivement, quand on a des problèmes de logistique, de collecte, de logistique, de froid, et puis à l'arrivée de disponibilité du lait local, effectivement, ça coûte moins cher d'importer parfois de la poudre de lait qui est faite en énorme quantité en Europe, malgré le fait qu'elle part en bateau, etc. C'est un peu la même chose, finalement, en France. On a des produits locaux qui sont plus chers que les produits importés. Ça se voit très, très, très souvent, ça, pour plein de productions animales.
Biogoura Soulé, Indatou Amadou.
Oui, Emmanuel, oui. Je crois que la question est, c'est une question de logistique. Et on a dit le lait local ici fait l'objet d'une très, très, très grande atomicité, donc sa collecte est très difficile. La logistique est encore défaillante au point de vue des infrastructures que nous avons. Mais il ne faut pas oublier également tous les soutiens que l'Europe apporte au lait local et au lait européen que nous importons, qui de surcroît n'est pas du bon lait. Donc tout cela fait qu'aujourd'hui, le produit se retrouve sur le marché national dans nos pays à un prix nettement inférieur.
Vous faites allusion à quel soutien? Est-ce que vous faites allusion notamment, par exemple, aux subventions pour le stockage là, qui était conjoncturel, le stockage du lait, ou est-ce que vous faites allusion aux droits de douane à l'entrée du lait en poudre sur le continent africain?
Mais il y a les deux. Il y a les deux. Il y a d'abord tout le soutien que le lait dont il bénéficie en Europe, au point de vue du stockage et des conditions favorables pour l'exportation, mais aussi le degré d'ouverture de nos marchés, qui en réalité ne sont que des sortes de conditionnalités auxquelles nos pays sont obligés de se soumettre pour bénéficier de quelques subsidies en termes d'aide ou d'appartenance à des zones de libre-échange, etc. Donc ça, c'est des éléments très importants.
Vous voulez dire que le lait en poudre n'est pas assez taxé, c'est ça? Là, ce sont des taxes
non,
à,
le lait,
à 5%.
C'est le moins taxé dans le statut, par exemple, du tarif extérieur de la CEDEAO. Alors que le produit, le lait, est considéré comme un produit stratégique dans la région. Mais pour des considérations qu'on ne s'explique pas entièrement, aujourd'hui, il est parmi les moins taxés à 5% et ensuite contingenté selon les modes d'emballage.
Est-ce qu'on pourrait envisager que la CEDEAO, justement, collectivement, pousse à l'augmentation de ses taxes pour pouvoir, à l'abri des frontières, développer un petit peu plus la production locale, puisqu'elle coûte plus cher?
Oui, vous savez, la CEDEAO est composée de deux sortes de pays du point de vue du lait. Il y a des pays purement consommateurs, qui sont les pays côtiers, où on a plus de 60% de la population régionale, et les pays sahéliens qui sont producteurs. Pour le moment, il n'y a pas d'échange intracommunautaire du lait. Donc tout le monde se rabat sur sa capacité nationale de production. Et aujourd'hui, il n'y a pas de lisibilité sur les possibilités d'échange au niveau régional et d'assurer la complémentarité entre ce qui peut être considéré comme des zones de surplus, donc le Sahel, et des zones excédentaires ou de consommation, comme les pays côtiers. Donc tout ça, ça fait que c'est difficile pour la CEDEAO de prendre une décision qui ne vient pas des États, des États membres.
En tout cas, pour certains consommateurs, ça ne fait pas de doute. Hein. Casimir à Abidjan nous dit le prix du lait en poudre, c'est le résultat de ce fichu accord APE. Poulet, bœuf, porc au détail, tout est importé, dommage. Donc pour pas mal de consommateurs, Claire Fage, il y a quand même l'idée de cette trop faible taxation de ces produits importés.
Oui, alors il y a peut-être une marge de manœuvre. Effectivement, les pays côtiers qui n'ont pas d'élevage suffisant doivent de toute façon importer du lait en poudre. C'est pas le problème en soi. Encore faut-il qu'effectivement il y ait la qualité derrière et un étiquetage qui ne trompe pas le consommateur. Mais on pourrait envisager une taxation, et je crois que c'est un projet qui va peut-être se réaliser, non, d'augmenter la taxation quand c'est la période de production de lait en Afrique de l'Ouest, par exemple, une taxe flottante, un petit peu comme pour les produits pétroliers.
C'est-à-dire un robinet qui s'ouvrirait ou pas en fonction de quand on désavantage le moins les producteurs locaux, Biogoura Soulé. C'est quelque chose qui est en préparation?
Oui, je ne peux pas dire que c'est en préparation, mais c'est envisageable parce que on est dans un processus de révision du tarif extérieur commun de la CEDEAO, et il est de plus en plus question qu'on puisse adopter des mesures de défense qui viennent s'ajouter aux taxes presque permanentes qui sont là et qui permettent d'ajuster le niveau de l'offre et de la demande selon les besoins de la région.
Alors,
et pour un certain nombre de produits, ça se fait déjà, comme l'oignon au Sénégal, comme la pomme de terre en Guinée. Donc on pourrait l'envisager à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest, mais ça demande une organisation beaucoup plus forte, des organisations régionales qui permettent de disposer d'informations, de données crédibles
Et des accords aussi avec l'Europe, parce que d'un côté on a des politiques de subvention, des politiques de développement, et puis de l'autre on reprend ce qu'on a financé pour favoriser le commerce international. Franchement, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Vous restez avec nous, on va parler des solutions, mais on va parler aussi de la qualité du lait importé. Ça, on l'a dit, il y a quand même un problème de qualité et un problème d'étiquetage, il faut qu'on y revienne, hein, pour que le consommateur sache exactement ce qu'il consomme, mais aussi il y a aussi beaucoup de choses à dire sur le lait local. Certes, il est produit en trop faible quantité, mais il y a beaucoup de choses à améliorer aussi en termes de qualité et de distribution. Une petite pause alimentaire avec Africa Express et son célèbre poulet bicyclette, Funky Chicken, la viande la plus consommée au monde, mais ça sera peut-être pour une autre émission. Et d'ici là, bien sûr, vous continuez de téléphoner 33 7 64 45 51 41.
Finish chez pour la maman qui attend nous pour boire un petit coup et puis famille à Osea.
Qui ça?
Finish chez pour la maman qui attend nous pour boire un petit coup et puis famille à Osea.
Les aigus de la montre ne font que tourner où oh. Et jamais tu ne pourras m'attraper où oh. La mère de ta mère a déjà essayé hey. Et le père de ton père a toujours échoué Petite maman, tu plantes la graine, tu veux me manger. Petite maman, tu plantes la graine, tu vas échouer oh. Oh, tu ne m'attraperas jamais. Ah, petite maman, tu plantes la graine, tu veux me manger. Petite maman, tu plantes la graine, tu vas échouer ou oh, oh. Ah, tu ne m'attraperas jamais. Tu veux pas m'attraper.
Fini chercher pour la maman qui attend nous pour boire un petit coup et puis famille à Osea.
Qui ça?
Fini chercher pour la maman qui attend nous pour boire un petit coup et puis famille à Osea.
Qui ça?
Fini chercher pour la maman qui attend nous pour boire un petit coup et puis famille à Osea.
Qui ça?
Fini chercher pour la maman qui attend nous pour boire un petit coup et puis famille à Osea.
Petite maman, tu plantes la graine, tu veux me manger. Petite maman, tu plantes la graine, tu vas échouer.
Ah, tu ne m'attraperas jamais.
Parce qu'on m'appelle Funky Chicken, Funky Chicken, Funky Chicken, Funky Chicken.
En direct sur RFI, 7 milliards de voisins. On parle de la consommation de lait en Afrique avec vous, Claire Fage, spécialiste des matières premières sur RFI. Une demande qui a explosé ces dernières années, une demande qui n'est pas satisfaite avec le lait local. Quand je dis pas satisfaite, c'est en termes de quantité. Hein. Il manque la moitié de la demande de consommation. Donc on est obligé d'importer du lait en poudre, un lait en poudre de très faible qualité, coupé avec de l'huile de palme, un lait en poudre européen et un lait en poudre très faiblement taxé. On en discute aussi avec Biogoura Soulé qui représente la CDAO pour les questions d'élevage et Indatou Amadou qui représente les associations de promotion de l'élevage au Sahel et en Sahel, et vous coordonnez la campagne Mon Lait est local. Vous êtes les uns et les autres en ligne avec nous au Sénégal, au Bénin, à Ouagadougou, Sénégal pour Bagoré Batili. Le fondateur de la Laiterie du Berger, une entreprise familiale au Sénégal avec des produits laitiers fabriqués à base de lait local, mais pas que d'ailleurs. On va en parler. Bagoré Batili, quelle est la part du lait local et du lait importé dans vos produits laitiers de la Laiterie du Berger?
Je vais répondre à ça. Je voudrais juste revenir sur les questions de logique d'importation versus production locale et tout ça. C'est pas nouveau. Donc maintenant, dernièrement, il y a cette solution entre guillemets du lait réengraissé avec de la matière grasse végétale. Je sais pas, je dirais depuis une dizaine d'années. Mais depuis, ça fait bien plus longtemps que ça qu'on importe de la poudre massivement d'Europe. Nos marchés en fait urbains, africains, ils se sont construits avec en s'approvisionnant avec de la poudre, de lait d'abord, qui était plus cher mais qui était directement subventionné à un moment. Il y avait carrément des subventions aux industries européennes qui exportaient. Ensuite, il y a eu toutes sortes de mécanismes. Mais ce qui est intéressant là-dedans pour moi et que je voulais souligner, c'est que on a parlé d'un maillon élevage. Hein. Il faut produire du lait. Ça, c'est un maillon élevage. Il faut que les éleveurs soient des professionnels. Il faut que les vaches produisent bien. Il faut qu'on ait l'aliment, etc. La santé. Bon, ça, c'est vraiment l'amont. Il faut un maillon, disons, industriel ou en tout cas de transformation pour la mise en marché. Les gens qui vont faire la collecte, qui font les bons produits, qui vont dans les marchés, qui distribuent, qui font les marques, qui développent le local, etc. etc. Bon. Mais il y a un autre maillon qui est fondamental pour les filières agricoles, qui correspondent à beaucoup d'acteurs, beaucoup de gens. C'est toujours des questions souveraines. C'est le maillon politique. Donc, il faut qu'il y ait une vision politique du développement de l'élevage, de l'agriculture, voire du développement économique tout court, qui s'applique dans les règles, les réglementations douanières, etc., et budgétaires.
Ça oui, parce dire, que ce sont des filières qui créent beaucoup d'emplois.
De soutien à la filière, oui.
Absolument.
On va en reparler. Je voudrais juste que vous répondiez à ma question, Bagoré Batili, sur l'étiquetage, parce que c'est une question qu'on a soulevée. Il y a beaucoup de questions, notamment d'auditeurs aussi, qui s'interrogent sur la qualité, y compris du lait local. Mais l'étiquetage, est-ce que quand on achète un produit laitier au Sénégal, on sait quelle est la part de lait en poudre importé et la part de lait local, ou c'est impossible ?
Bon, de toute façon, la plupart des industries ne mettent pas de lait local, donc ils vont marquer lait en poudre. Nous, en ce qui nous concerne, aujourd'hui, enfin l'an dernier, en 2019, on a mis 20% de lait local dans notre production en moyenne. Il y a des produits qui sont 100% lait local.
Est-ce que c'est spécifié sur l'étiquette du produit, sur le yaourt d'Olima?
Sur le yaourt d'Olima, on rentre dans le technique, hein. On a deux grandes marques, okay. On a plusieurs produits. Pour le lait, par exemple, le lait pasteurisé, c'est un produit qu'on
oui.
Il y a plein de choses à raconter.
Allons droit au but, s'il vous plaît, il nous reste peu de temps, Bagoré.
Donc le lait pasteurisé, c'est 100%. Le yaourt, c'est 20%. Ce n'est pas spécifié sur le yaourt.
Donc le consommateur ne sait pas qu'il y a 20% de lait local et 80% de lait importé en poudre.
Absolument. Parce qu'après, il y a une logique de batch. Bah, vous demandez d'être spécifique, il faut bien l'être à un moment. Sinon, le problème aussi, c'est la désinformation. Vous savez, quand on produit, il y a des batchs et il y a des règles à respecter pour chaque batch. Hein. C'est ça, la qualité, finalement. Et donc, en fonction des batchs, il peut y avoir une proportion qui change.
Qu'est-ce que c'est les batchs, excusez-moi, mais...
Les batchs, pardon, c'est les lots. Les lots, quand on fait nos mélanges, on prend le lait, on ajoute le sucre, etc. etc. Alors, il y a des recettes qui sont ouvertes. Je vous ai dit, pour le yaourt, chez nous, c'est ouvert. C'est un produit qui consomme du lait local dans certaines proportions. Pour le lait, c'est pas ouvert. Donc, on commence par consommer le lait de collecte qu'on a pour faire le lait pasteurisé. Et des autres produits 100% lait de collecte, il y a du yaourt là-dedans, hein, des yaourts spécifiques de la gamme Club Cosam, alors là, je parle pour les consommateurs. Et puis le reste, on le met dans Dolima avec le cahier de charge d'Olima. Dans le yaourt, je veux dire le yaourt vanille, etc., où il y a un mélange. D'accord ? Ça, c'est nous. Mais en fait, moi je suis un partisan d'une imposition. Enfin, il faudrait qu'on arrive à imposer un certain pourcentage d'incorporation pour tout le monde.
Et de le faire savoir aussi aux consommateurs. Un auditeur nous poste ce message. Non, il est en direct avec nous, on va l'avoir. Jonathan est malien, il est à Rabat au Maroc, il a 23 ans, étudiant. Bonjour Jonathan.
Bonjour les voisins. De mon côté, en fait, moi je n'ai plus confiance aux producteurs de lait encore, car ils nous font berner.
Alors, vous parlez des producteurs de lait maliens, votre pays d'origine ?
Oui. Voilà, parce qu'ils nous font berner et ils font des recettes avec des laits industrialisés venant d'Europe. Et en plus, on connaît plus encore des vrais laits, car cette tendance multiplie chaque jour. Depuis des années jusqu'à maintenant, on ne trouve pas des vrais laits.
Vous faites allusion à quel produit exactement, là, Jonathan ?
Pour dire qu'on ne trouve pas des laits locaux qui nous vendent, c'est-à-dire pour montrer que c'est des vrais laits. Ils ont des laits transformés, c'est-à-dire ils font des recettes avec les laits de poudre, en disant que ce sont des laits de...
Ouais. Vous n'avez plus confiance dans le lait local. Merci beaucoup de nous avoir appelés, Jonathan. On va donner la parole à une auditrice qui ne pense pas la même chose tout à fait que vous. Enfin, quoique, Jeannette nous a posté ce message à Abidjan. On l'écoute.
Bonjour, chers voisins. Je suis Jeannette de la Côte d'Ivoire. En matière de lait, je dirais plutôt que je suis mauvais exemple pour les entrepreneurs africains, parce que je préfère le lait importé. Au niveau du goût, au niveau de la texture, il n'y a pas match. Ici, en Côte d'Ivoire, le lait fait sur place n'est pas de qualité. Je me dis aussi qu'il n'y a pas assez de différence entre un lait importé et elle est sur place au niveau du prix. Donc, je ne me fatigue même plus. Je me souviens qu'une fois, ma mère disait, mais tu donnes l'argent aux blancs, donne l'argent à tes frères noirs. Une fois, elle est venue chez moi, je lui fais un bon café au lait. Elle me dit, mais le lait là, ton café, il est très très bon. J'ai dit, ah, tu comprends pourquoi moi je ne consomme pas le lait local ici. Elle dit, effectivement, tu as raison. J'ai souri, j'ai dit, maman, tu as compris maintenant. Donc, je prie vraiment que nos entrepreneurs écoutent cette émission pour qu'ils puissent vraiment s'améliorer, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Merci.
Indatou Amadou, vous qui coordonnez la campagne Mon lait est local, qu'est-ce que vous répondez à cette auditrice qui dit le goût du lait importé est meilleur, finalement sous-entendu plus adapté au goût des consommateurs aujourd'hui?
Oui, merci. Je dirais que bon, c'est la tendance. J'entends quelqu'un qui réclame le lait importé parce que forcément, je pense que je parle forcément de son cas, mais aussi de beaucoup de nombreux consommateurs actuellement qui ont connu le lait importé dont on a vraiment, comme dit Bagoré, on a toujours importé du lait. Donc, nous pensons qu'un tel consommateur recherche ce qu'il a connu, donc il recherche ce qu'il a consommé depuis peut-être l'enfance, et donc c'est un goût qui est pour lui le meilleur goût. Mais je pense aussi qu'il faudra dire à l'audience qu'il y a des bons laits locaux. Donc certes, il faut améliorer la qualité et nous travaillons beaucoup là-dessus. Beaucoup d'entreprises qui travaillent sur le lait local travaillent effectivement sur la qualité du lait local. Donc il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits. Mais je pense que ce que l'auditrice dit est une question d'habitude, une question de conditionnement, dans la mesure où nous avons tous, depuis notre enfance, bu du lait importé, depuis les cantines scolaires en Afrique, du lait importé venu des États-Unis ou de l'Europe, on nous donne ça en cantine scolaire. Donc nous avons connu ce goût et nous le recherchons aujourd'hui parce que
c'est ça, une forme
meilleur.
De conditionnement des consommateurs sur le continent africain. Il nous reste quelques minutes. Je voudrais que vous nous disiez les uns et les autres, puisque Bagoré Batili, vous avez, vous, en tant qu'entrepreneur, commencé l'émission en disant « Mais dans 10 ans, tout ça aura changé probablement. » Et même s'il y a une croissance démographique incroyable sur le continent africain, peut-être qu'il y aura une grosse partie de la demande de lait et de produits laitiers qui sera satisfaite par une production local. Alors, qu'est-ce qui reste pour avancer sur cette route-là? Donnez-nous des pistes, Bagoré Batili, Indatou Amadou et Biogoura Soulé. Bagoré Batili, en quelques mots, rapidement, sur les principales pistes que vous défendez.
Bon, moi, je crois qu'il faut qu'on affirme une vision politique. Comment on voit l'élevage dans le Sahel? Tous ces jeunes issus des familles d'éleveurs qui vont rentrer dans le marché là, dans les 10 ans, dans les 20 ans, dans le soi-disant marché, bah, qu'est-ce qu'on va en faire? Ils ne savent qu'élever, ils ne vont pas à l'école, etc., etc. Leurs parents sont pauvres. Si jamais on laisse ça faire, bah, je vous dis qu'il y aura d'autres problèmes que le lait ici. Ça va commencer dans certains pays. Et ça va aller jusqu'en Europe. Pour le coup, on va vous importer aussi nos problèmes.
D'accord, sous-entendu le terrorisme. Voilà, quand on sait ça. Que vous avez eu, vous, avec les éleveurs, ne serait-ce qu'à faire supprimer la TVA sur le lait local au Sénégal, on se dit que la route est encore longue quand même.
C'est vrai, mais c'est vrai que c'est difficile. Mais moi, je suis un partisan de l'effort. C'est normal. Construire, c'est difficile. En Europe, après la guerre, quand on a fait les grandes laiteries, c'était difficile. Il fallait reconstruire l'Europe. Mais il y avait un grand projet politique. Et il y a eu des aides massives, le plan Marshall. Par exemple. Ensuite, bon, la PAC, ça a été massif. Nous, on a besoin de ça.
Et je pense, donc des États qui aident massivement à structurer la filière et qui les aident financièrement.
En tout cas, qui mettent en place une structure réglementaire permettent à la filière de trouver sa place. On ne peut pas tout de suite se battre avec la poudre pour plein de raisons, on n'est pas compétitif, mais il faut une place pour le lait local. Et moi, je suis partisan, puisqu'on est pris par le temps, je vous le dis, il faudrait que dans toutes les recettes, puisqu'il faut de l'industrie pour faire de la qualité. Hein, sans industrie, sans système qualité,
obliger
on aura toujours
les transformateurs africains à mettre une part non négociable de lait local.
Voilà, mais alors sans être seulement avec le bâton, moi je suis plutôt pour l'incitation, parce que c'est pas des mauvais élèves, mais qu'on se dise non, on est tous ensemble, sans être non plus un samaritain, mais on est tous ensemble pour développer notre continent, les industriels ont un rôle à jouer là-dedans, l'État aussi, on devrait pouvoir trouver une solution pour incorporer par exemple 20%, 30%.
Indatou Amadou, c'est votre point de vue, vous demandez la suppression, l'augmentation des droits de douane pour le lait importé, qu'est-ce que vous demandez en tant qu'ONG?
Exactement, je suis d'accord avec ce qu'il propose, l'augmentation des droits de douane. Et également, je propose, nous demandons effectivement qu'il y ait aussi une incitation des multinationales à collecter du lait local et à le transformer. parce qu'on a beaucoup de multinationales qui sont installées en Afrique et qui ne transforment que de la poudre de lait importé. Donc, quand leur, il y a des mesures incitatives pour que ces multinationales prennent en compte le lait local et puissent la transformer, et le transformer du moins. Et aussi, en direction de l'Europe, des politiques européennes, moi, je pense que nous, la campagne, au niveau de la campagne, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait aussi une cohérence des politiques de développement avec les politiques commerciales. Parce que, comme on l'a dit dans l'émission, il ne faut pas donner d'une main et reprendre de l'autre côté, en ce sens que l'Europe finance beaucoup de projets de développement de la filière lait locale, mais en même temps, ce qu'on voit, on voit encore le financement de certains marchés sur l'Afrique avec la poudre de lait. Donc, c'est de voir comment on peut avoir une cohérence de ces politiques-là.
Biogoura Soulé, agroéconomiste pour la CDAO, vous, quelles sont les urgences ?
Bon, la CDAO et plus de la communauté régionale a une vision beaucoup plus holistique. Hein, elle pense qu'il faut travailler sur l'ensemble des segments, améliorer la productivité.
Oui, mais plus précisément, comment vous fixez des objectifs énormes d'augmentation de la production ? Comment vous comptez y arriver ?
Oui, c'est ça que j'ai dit. On fixe l'objectif de doubler la production d'ici 2030. Donc,
c'est réaliste,
en passant de 5. Ah oui, il faut y mettre les moyens, ça c'est sûr. Ça veut dire passer de claironner la volonté politique à un réel engagement qui se traduit par la mise en œuvre d'un certain nombre de réformes structurelles à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la production, transformer notre système d'élevage, densifier la transformation en améliorant la collecte. On a déjà avancé quelques pistes, donner des incitations pour que les industries puissent collecter le lait local, et réorganiser le marché et inciter les gens et les consommateurs plutôt vers une préférence de produits.
Oui, si tant est que le prix ne soit pas trop décisif, il ne faut quand même pas oublier que c'est un produit de première nécessité, notamment pour les enfants. Claire Fage, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose ?
Oui, c'est vrai qu'il y a un problème de collecte énorme. Alors, est-ce qu'un jour, on pourra collecter au plus près des zones d'élevage sahéliennes pour faire de la poudre de lait africaine ? Pourquoi pas ? Est-ce que dans les zones urbaines où là on va sans doute faire évoluer la génétique pour avoir des vaches laitières de plus en plus productives parce qu'on a un bassin de consommation énorme, il va se poser d'autres questions, à savoir l'alimentation de ces fermes laitières. Est-ce qu'on va devoir importer cette fois du fourrage parce qu'on n'en aura pas suffisamment sur place, et là c'est un autre problème, c'est-à-dire qu'on importe du soja. Voilà, et tout ça, il va falloir peser, ce sont des enjeux énormes. Et je pense que les populations devront se prononcer là-dessus, parce que ça, un jour, il faudra peut-être choisir entre importer de la poudre de lait étrangère et importer du soja de l'étranger. Voilà, peut-être que les grands défis, c'est effectivement l'étiquetage pour que le consommateur puisse choisir vraiment avec toutes les informations.
Et en même temps, avec la crise économique,
le pouvoir d'achat
venir sur le continent, voilà. Il y a quand même d'abord la problématique du
pouvoir d'achat. Il y a certainement toute une batterie de mesures à mettre en place.
Merci en tout cas à vous tous. Merci d'avoir été en ligne avec nous, Bagoré Batili, cofondateur de la laiterie du Berger au Sénégal, d'ailleurs, dont la multinationale Danone est actionnaire. Il y aurait aussi des choses à dire dans la relation avec les industriels sur des projets de production locale, mais ça fera l'objet d'une autre émission. Merci d'avoir été en ligne.
Ils sont de plus en plus impliqués, ça c'est sûr.
Ouais, à la demande aussi de la responsabilité sociale des entreprises, mais avec parfois certains paradoxes. Merci aussi à vous, Indatou Amadou, de l'association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane. Et puis, vous coordonnez la campagne Mon Lait est local. Et merci à vous, Biogoura, agroéconomiste pour la CDAO, spécialiste des questions d'élevage. Merci à toute l'équipe. Et demain, 7 milliards de voisins, on va prendre du recul. La philosophie expliquée aux enfants par l'écrivain Tahar Ben Jelloun. Tout un programme où comment répondre à toutes les questions que les enfants se posent depuis la pandémie et le confinement. Ils se sont posé beaucoup de questions existentielles. N'oubliez pas de les prévenir d'écouter l'émission, et bien sûr, vous aurez la parole dans quelques instants, le journal sur RFI.